VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chérubin Dorsil.
Et Morgan Guiriec.
Les grands points de l'actualité.
La lutte contre Boko Haram au cœur du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce vendredi à Addis Abeba.
République démocratique du Congo, l'armée lance une offensive contre les rebelles Hutus rwandais dans l'Est.
Kinshasa avait donné jusqu'au 2 janvier aux rebelles rwandais pour déposer les armes et s'y rendre, ou alors subir un désarmement forcé.
Au Gabon, l'opposition forme un front de défiance contre le pouvoir du président Ali Bongo Ondimba.
Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun fait ses adieux à la compétition tandis que la Guinée avance grâce à un tirage au sort qui fait râler les Maliens. On fera le point avec Nicolas Pinault.
Et nous aurons bien sûr notre page économie, mais d'abord le journal.
L'armée tchadienne a chassé les combattants de Boko Haram de la ville de Maloum Fatori dans le nord-est du Nigeria. Les soldats tchadiens appuyés par l'aviation ont réussi à reprendre aux islamistes cette localité située sur les rives du lac Tchad. Pour un témoignage, Idriss Fall a joint Aboubakar Mustapha Ligari à Bosso, dans l'extrême sud-est du Niger et juste en face de Maloum Fatori au Nigeria.
Le général Didier Itumba a annoncé à Beni les lancements des nouvelles opérations contre les rebelles Hutus rwandais des FDLR. Ce n'est pas une opération conjointe avec la MONUSCO, mais tout a été planifié avec le FRDC, a précisé de son côté le général brésilien Carlos Alberto dos Santos Cruz, commandant de la force onusienne. Kinshasa avait donné jusqu'au 2 janvier aux rebelles rwandais pour déposer les armes et s'y rendre, ou alors subir un désarmement forcé. Les FDLR n'ont pas répondu à cette injonction. Le président Joseph Kabila était sous forte pression internationale pour donner son feu vert à une opération conjointe FRDC-MONUSCO. L'annonce de cette offensive survient à la veille d'un sommet de l'Union africaine qui doit aussi aborder la question de la situation dans l'est de la RDC.
Nous nous excusons auprès de nos auditeurs. C'était un reportage sur l'offensive lancée par Kinshasa contre les rebelles Hutus rwandais dans l'est de la RDC avec Eddy Isango. Et en parlant de Boko Haram, il faut noter, Morgan, que 10 Camerounais ont été égorgés mardi et hier dans l'extrême nord du Cameroun.
Des crimes attribués donc à Boko Haram, d'après l'AFP qui mentionne des sources locales. 4 victimes ont été retrouvées à Achigachia. 3 autres personnes ont été tuées lors d'un affrontement entre villageois et islamistes à Dola. On compte 3 autres égorgés à Gnamgam, où des habitations ont été incendiées. En Centrafrique, des attaques ont fait au moins 5 morts et de nombreux blessés dans la région de la Nana Gribizi, dans le centre nord du pays. Les assaillants seraient des peuls armés et ex-Séléka, indique la gendarmerie. Cité par l'AFP, la plupart des habitants ont fui pour se réfugier en brousse, apprend-on de même source. Notons par ailleurs que les enseignants ont débuté une grève de 8 jours pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire.
La lutte contre Boko Haram au cœur du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce vendredi à Addis Abeba. C'est le 24e sommet de l'Union. Ça sera vendredi et samedi. Jean-Roger Bion.
La présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, avait déjà appelé lundi à une action africaine collective contre Boko Haram lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la capitale éthiopienne. La montée en puissance de Boko Haram, dont l'insurrection a fait plus de 13 000 morts au Nigeria depuis 2009, suscite l'inquiétude partout en Afrique. La réunion annuelle des chefs d'État du continent va aussi aborder le conflit sud-soudanais, les élections à risque en 2015 ainsi que l'épidémie du virus Ebola. Une des questions est de savoir si l'organisation panafricaine va porter à sa présidence tournante Robert Mugabe, dont c'est le tour, le président zimbabwéen au pouvoir depuis 1980 et adversaire déclaré des Occidentaux, signerait dans ce cas son grand retour sur la scène diplomatique internationale.
L'armée tchadienne a chassé les combattants de Boko Haram de la ville de Maloum Fatori dans le nord-est du Nigeria. Les soldats tchadiens appuyés par l'aviation ont réussi à reprendre aux islamistes cette localité située sur les rives du lac Tchad. Et pour un témoignage, Idriss Fall a joint Aboubakar Mustapha Ligari à Bosso, dans l'extrême sud-est du Niger et juste en face de Maloum Fatori au Nigeria.
On est à peine à 3 km de Malom Fatori. Hier, vers 9h, on a vu 3 avions qui sont venus faire le tour un peu vers le village. Et puis après, on a entendu des bombardements. On a vu des fumées. Et ensuite, aujourd'hui, donc, on a appris que la ville de Malom Fatori a été reprise par les forces des Tchadiens. Et nos forces sont tout au long de la frontière pour ne pas laisser, en tout cas, les insurgés fuir vers le Niger.
Est-ce qu'il y a des réfugiés qui ont pu venir chez vous à Bosso?
Non, parce que ça fait un bout de temps depuis la prise de Malom Fatori, donc la population a pu fuir. Donc tous ceux qui sont restés, c'est des gens qui sont d'accord avec la secte. Paraît-il que les insurgés, après avoir repris Malom Fatori, donc ils ont fui, ils ont quitté les villages tout au long du Niger.
C'était Aboubakar Mustapha Ligari, un habitant de Bosso, dans l'extrême sud-est du Niger.
Au Gabon, l'opposition au président Ali Bongo Ondimba vient de former un front de défiance afin d'augmenter la pression sur le pouvoir en vue d'une alternance démocratique. Des tentatives de manifester contre le gouvernement gabonais ont été violemment réprimées au début du mois. Amou Gemba est le secrétaire général du front de l'opposition pour l'alternance au Gabon.
C'est le peuple gabonais qui se dote d'un front. C'est le peuple gabonais dont les conditions de vie se sont dégradées qui aspire aujourd'hui à ce qu'il y ait une alternance au Gabon. Figurez-vous que depuis 50 ans, nous n'avons jamais connu d'alternance au Gabon.
Cette alternance, comment comptez-vous y parvenir?
Nous avons tenté jusque-là des voies démocratiques. Nous voulons utiliser toutes les portes que le droit offre.
Ça veut dire quoi exactement?
Nous avons adopté un nouveau calendrier pour galvaniser les troupes populaires et pour faire en sorte que nous soyons plus efficaces. Et d'autre part, les syndicats ont lancé un préavis de grève et nous attendons de voir les conclusions de cette affaire-là avant de lancer nous-mêmes nos propres mots d'ordre.
Amougué Mba, secrétaire général du Front de l'opposition pour l'alternance démocratique au Gabon.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Burkina Faso, le personnel de la justice observe un arrêt de travail depuis mercredi sur l'ensemble du territoire. Cela fait suite, selon les syndicats, à la séquestration d'un magistrat en début de semaine à Ouagadougou. Antoine Kaboré, secrétaire de la SAMAB, l'un des syndicats de la magistrature, Bagassikoura lui a demandé si c'est tout l'appareil judiciaire du pays qui est paralysé.
C'est tout le monde, c'est les greffiers, c'est les magistrats, c'est le personnel judiciaire. Vous savez, les agressions contre les personnels de la justice ou les palais de justice n'ont pas commencé maintenant. Depuis 11, des militaires ont tiré sur nos palais. Après cela, nos palais font l'objet de marches intempestives. De sorte que la sécurité des magistrats ne sont pas garantie. L'année dernière, en mai, nous avons perdu un collègue, le juridique, qui a été assassiné. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi. Et donc, ces attaques répétées contre les magistrats, on peut croire qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous disons que nous sommes en insécurité. Si pour notre travail, on doit nous agresser, nous pensons que nous ne pouvons pas travailler, nous décidons d'arrêter. Et donc, pour nous, aujourd'hui, le pouvoir exécutif, la parole du pouvoir exécutif, nous la mettons en doute. C'est pourquoi nous voulons des éléments concrets, des preuves palpables, mais pas de la résolution de ce problème avant que nous ne reprenions le travail dans le pays.
Antoine Kaboré, secrétaire de la SAMAB, l'un des syndicats de la magistrature au Burkina Faso.
Human Rights Watch a publié ce jeudi la 25e édition de son rapport mondial pour l'organisation. 2014 a été encore une fois une année triste en matière de droits humains en Afrique. Jacques Aristide.
Un gros chapitre est consacré aux atrocités commises par Boko Haram au Nigeria. Human Rights Watch écrit que ces violences pourraient faire échouer les prochaines élections dans le nord-est du pays. Pour l'ONG, l'armée nigériane a souvent réagi de manière excessive en torturant et tuant parfois des hommes et garçons suspectés d'avoir apporté leur soutien à Boko Haram. Human Rights Watch appelle le gouvernement à enquêter sur ces abus présumés et condamner les auteurs. L'ONG note que de nombreux autres pays, notamment le Kenya et l'Égypte, ont répondu aux menaces réelles ou perçues de terrorisme par des mesures abusives. En Libye, 2014 a été une année tragique pour les droits humains, d'après Human Rights Watch, qui a également sévèrement épinglé le Burundi et l'Éthiopie pour des restrictions imposées aux opposants et journalistes. Dans le même rapport, l'ONG américaine a fustigé le président Barack Obama pour son refus d'enquêter sur les actes de torture qui auraient été commis par la CIA.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place maintenant au journal de la CAN avec Nicolas Pinault.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal de la CAN sur VOA Afrique. La Guinée accède au quart de finale grâce au cruel tirage au sort qui élimine le Mali. Le sourire à Conakry ce soir, mais la tristesse à Bamako. Terrible situation que d'avoir recours à un tirage au sort. Les deux équipes qui ont enchaîné 3 matchs nuls, un partout depuis le début de la CAN, étaient donc au coude à coude. Le règlement de la CAN est pourtant clair. La chance a donc souri au Sélie National qui retrouvera le Ghana dimanche en quart de finale. Le Mali, lui, est inconsolable. Le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Babadiara, a déclaré que quitter la CAN sur un tirage au sort constituait la pire des cruautés. Le tirage au sort pour départager deux équipes n'avait plus été utilisé dans une Coupe d'Afrique depuis 1988. On écoute Michel Dussuyer, le sélectionneur de la Guinée. Il s'exprimait hier soir, juste après le 1 partout face au Mali.
C'est vrai qu'on a beaucoup reculé en seconde mi-temps. On n'a jamais pu mettre le pied sur le ballon. On a subi l'impact physique de l'adversaire. Donc ça a été au courage cette deuxième mi-temps. Ça a été au forceps. On sait que cette équipe du Mali est athlétique. Elle nous a fait souffrir sur toute cette seconde mi-temps. On n'a pas bien négocié les ressorties du ballon. C'est vrai que le terrain ne nous aidait pas trop non plus. C'est un match nul à l'arraché avec les tripes. Mais les joueurs ont fait preuve de beaucoup de courage, d'abnégation pour décrocher ce point. On termine ce premier tour en étant invaincu. Je pense que pas beaucoup l'auraient dit avant la compétition.
Michel Dussuyer, sélectionneur du Sélie National, au micro de l'envoyé spécial de VOA Afrique, Abdou Chakour, Aboud. Hier, sur le terrain, toujours dans le groupe D, le ouf de soulagement pour les supporters ivoiriens. Gravel libère tout un pays grâce à son but inscrit face au Cameroun. Score final, 1-0. Les Lions Indomptables rentrent à Yaoundé. Les éléphants, eux, continuent la compétition, mais que ce fut dur. Et les Ivoiriens n'ont toujours pas convaincu. Après le match, Hervé Renard, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a estimé que la compétition démarrait maintenant. Côté camerounais, il paraît improbable que Volker Finke sauve son poste de sélectionneur après ce nouvel échec, moins cinglant qu'en Coupe du Monde au Brésil. Retour sur cette élimination des Camerounais avec Jules Valentin-Gué pour son coup de sifflet.
La phase qualificative se termine dans le groupe D sur le scénario que l'on redoutait. Si la Côte d'Ivoire, plus collective, plus créative et plus engagée, a pris le dessus sur une équipe camerounaise limitée, la Guinée et le Mali s'en remettent au sort pour être départagés. Par ricochet, la sensation du jour est l'élimination prévisible du Cameroun au premier tour, ce qui réduit plus encore la représentation de la CEMAC et de l'Afrique centrale pour une fois pléthorique. Il faut dire que les quadruples champions d'Afrique se sont pratiquement fait harakiri tout seuls. Tant le choix drastique de leur staff, opéré au lendemain du fiasco de la Coupe du Monde et maintenu après la qualification à la phase finale, ne leur laissait aucune chance. Cet ostracisme têtu a tout simplement mis de côté les meilleurs joueurs du pays, dont certains auraient pu être utiles dans l'amélioration de l'animation de jeu qui a tant manqué au Cameroun dès qu'il a fallu rencontrer des adversaires plus mobilisés et mieux armés. Mais la sortie précoce des Lions Indomptables a le mérite de consacrer plus d'attention au renouvellement en cours de la Fédération camerounaise de football et de procéder à un nettoyage sans passion des écuries d'Ogias dans le football camerounais. À demain.
Les quarts de finale de cette 30e CAN sont désormais connus. Dimanche, Algérie, Côte d'Ivoire et Ghana-Guinée. Et samedi, la Tunisie face à la Guinée équatoriale. Mais surtout à Bata, Congo, République démocratique du Congo. Claude Leroy, le sélectionneur des Diables Rouges, attend cette rencontre avec impatience.
On est l'équipe qui se qualifie avec le plus grand nombre de points pour les quarts de finale. On sera les seuls à 7 points dans un groupe qui était un peu compliqué avec le Gabon et le Burkina Faso. Magnifique moment de vie, ça fait un mois qu'on est ensemble, on a énormément travaillé à Dakar pendant 2 semaines, mais vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, avec des joueurs réceptifs, des joueurs qui aiment bosser, un groupe intelligent, jeune, très jeune, mais d'une maturité tactique assez étonnante. Alors maintenant, c'est un 4e match en peu de temps, aucun d'entre eux n'avait jamais fait une Coupe d'Afrique, ce sont des novices, donc faut digérer tout ça, mais on va essayer d'être prêt pour faire un bon match contre la RDC.
Claude Leroy, au micro de Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre radio partenaire à Kinshasa. Voilà, c'est tout pour ce journal de la CAN. Prochain point sur la compétition demain matin dans Le Monde Aujourd'hui. Et retrouvez-nous sur voafrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco, ce soir, c'est avec Bagessi Koura. Bonsoir Bagessi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Transport, la Chine et l'Union africaine veulent relier les métropoles du continent.
Oui, selon Jeune Afrique, l'Union africaine et la Chine ont signé un protocole d'accord pour un gigantesque projet d'infrastructure destiné à relier les capitales africaines, au moins d'autoroutes, de transport, de trains à grande vitesse et de liaisons aériennes. L'accord signé le 27 janvier à Addis Abeba est considéré par les deux parties comme l'accord du siècle. Jeune Afrique pense que ce projet va permettre à la Chine de rafler d'importants contrats et d'imposer encore un peu plus sa présence en Afrique.
Emirates Sky Cargo, la division de fret d'Emirates, se renforce en Afrique.
Oui, la compagnie a introduit un service de cargo hebdomadaire vers le Burkina Faso. Ouagadougou devient donc la 27e destination en Afrique du réseau Emirates Sky Cargo. La compagnie va desservir le Burkina à partir de Dubaï chaque mardi et compte en fonction de la demande multiplier ses vols. Il s'agit pour le groupe de renforcer les liens commerciaux entre les Émirats Arabes Unis et l'Afrique. Emirates Sky Cargo utilisera un avion cargo Boeing 777 sur la route Dubaï-Ouagadougou-Dakar-Francfort-Dubaï qui est capable de transporter plus de 100 tonnes de fret dans chaque direction.
La Banque centrale sud-africaine a une nouvelle fois réduit ses prévisions de croissance.
Oui, selon l'AFP, la banque met en cause les désastreuses conséquences pour l'économie des délestages électriques que connaît le pays. Après une modeste croissance de 1,4% en 2014, la Banque de réserve d'Afrique du Sud ne compte plus cette année que sur une croissance de 2,2 contre 2,5 attendue précédemment.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Bagessi Koura.
Le Monde aujourd'hui, chez Robin Dorcil et Morgane Guiriac, en votre compagnie pour cette édition du jeudi 29 janvier 2015. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Gao ce jeudi, 48 heures après la mort de 3 manifestants protestant contre un projet de zone temporaire de sécurité entre l'ONU et le MNLA. Ibeka renonçait ainsi à participer au sommet de l'Union africaine. De Gao, un reportage de Boubacar Touré.
Ainsi, le président de la République, accompagné du ministre de l'administration territoriale et du ministre de la sécurité intérieure et le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, Arnold Akeyenou, est arrivé ce matin à Gao. La délégation présidentielle s'est rendue tout d'abord à l'hôpital Hangadoumbou Moulay, où elle a visité les blessés et s'est inclinée devant les corps des victimes de la manifestation du mardi contre le projet de zone temporaire de sécurité entre l'administration et le MNLA. Ensuite, le président Ibrahim Boubacar Keïta et sa délégation ont rencontré la société civile. Ibrahim Boubacar Keïta explique l'objet de sa venue à Gao. Nous l'écoutons.
Je suis venu en le nom de la République m'incliner pieusement sur les victimes malheureuses des récents événements. Dire toute la compassion et toute la sympathie du Mali entier. Je suis ici pour témoigner la vive solidarité de l'ensemble de la République avec le peuple de Gao, avec la jeunesse de Gao. Vous dire que Gao ne sera jamais seul. Je reviendrai à Gao autant de fois qu'il le faudra pour que vous sentiez la République proche de vous, que vous sentiez qu'ici aussi est Koulouba.
Puis le président de la République de dire que la faute commise ne vienne pas entacher une œuvre colossale. Ce qui s'est passé est certes regrettable, mais l'on doit se ressaisir et se rappeler les circonstances dans lesquelles les Nations Unies sont arrivées à Gao. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République.
Il faut que nous retrouvions. Ne nous laissons pas être le jouet de qui veut la division de ce pays, qui veut le malheur de ce pays, qui ne peut pas souffrir que la communauté internationale consciente des enjeux est décidée très clairement au travers de résolutions plus pertinentes les unes que les autres que le Mali resterait un et uni, que nul ne pourrait diviser le Mali, que la mission internationale était d'aider à stabiliser cette unité du Mali, à déjouer tous les plans machiavéliques de division du Mali. Dans cette tâche difficile, complexe, ne nous laissons pas tromper, que l'arbre ne cache jamais la forêt, qu'une faute qui sera situé d'ailleurs, ne viennent pas entacher une œuvre colossale. Nous savons dans quel climat, dans quelle situation nous étions il y a 2 ans et demi à peine. Ne l'oublions jamais. Si aujourd'hui est Nous le devons beaucoup à la solidarité internationale, au sacrifice de fils de pays autres qui sont venus aider le Mali, notre peuple, notre pays, à se sortir des griffes d'un obscurantisme sans nom, d'une justice qui n'en était pas une, d'une brutalité qui confinait à l'ignominie. Ne l'oublions jamais. Ressaisissons-nous. Ce qui a été fait est plus que regrettable. Quand il y a une reconnaissance de la faute devant Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est pardonnée.
La faute commise est-elle pardonnée? Pour répondre à cette question, nous avons tendu notre micro à Sidi Oumar Cissé, un leader des jeunes patriotes de Gao, partie prenante de la marche du mardi.
Moi, je pense que le simple fait que le président de la République s'est déplacé pour Gao, cela sous-entend que c'est un aspect positif. Il a dû comprendre que les jeunes de Gao sont des patriotes et cela nous réconforte. Je ne peux que dire aux jeunes que nous avons d'ores et déjà gagné. Nous avons gagné pourquoi? La MINUSMA nous a fait une correspondance montrant qu'ils ont abandonné le projet. Cela nous revient, nous, en tant que leaders, d'appeler les gens comme on appelle à la retenue.
Gao, Boubacar Touré pour VOA Afrique.
Au Nigeria, la récente attaque de la secte Boko Haram contre la ville de Baga aurait pu être prévenue. En tout cas, une riposte militaire aurait pu être organisée plus tôt, estime Amnesty International. L'organisation fait état d'informations indiquant que les militaires nigérians avaient été alertés à temps, mais n'ont pas réagi pour empêcher l'avancée des islamistes.
Cette attaque contre Baga, dans le nord-est du pays, sur la rive du lac Tchad, le 3 janvier, a laissé un bilan de plusieurs centaines de morts. Ces centaines de femmes, des centaines de femmes et d'enfants ont été enlevés et des maisons détruites. Et ce n'est pas la première accusation du genre contre l'armée nigériane. Nous avons joint la présidente d'Amnesty International France pour des explications. On écoute Geneviève Garrigos.
Les informations que nous avons reçues, notamment d'un haut gradé de l'armée nigériane, est qu'effectivement, depuis, en tout cas pour Baga, depuis plusieurs mois, ils étaient au courant qu'une attaque était en préparation. Et d'ailleurs, dans les jours précédents, le 3 janvier, au moment où Baga et d'autres villes et villages de la région ont pratiquement été rasés, eh bien, ils avaient constaté l'augmentation des hommes armés, des sentinelles de Boko Haram, et des villageois avaient commencé également à s'enfuir de leur maison, visiblement prévenus. Et il est clair que l'armée était au courant, et notamment le poste qui était à Maiduguri et la base de la force multi-pays qui est basée à Baga.
Mais ce n'est pas la première fois qu'une telle accusation est lancée contre l'armée nigériane.
C'est effectivement ce que nous avions récolté déjà comme information en avril dernier, quand il y avait eu l'enlèvement des jeunes lycéennes nigérianes à Chibok. Là aussi, 4 heures avant, des veilleurs avaient informé l'armée que une attaque de Boko Haram se préparait et que visiblement ils se dirigeaient vers Chibok. Et d'ailleurs, dans le cas de Mondougi, donc qui a été pris ce week-end, là aussi il y avait eu des informations comme quoi cette ville serait attaquée, puisque lors de l'attaque de Baga, il avait été clairement dit à certains villageois que la prochaine étape serait Mondougi.
Mais selon les informations dont vous disposez, qu'est-ce qui expliquerait cette attitude des militaires nigérians?
Lorsque nous avions eu les premières informations concernant justement ce manque de réaction par rapport aux attaques qui ont eu lieu à Chibok au mois d'avril, les réponses que nous avions eues étaient que l'armée se mobilisait difficilement, en tout cas les soldats sur place se mobilisaient difficilement, compte tenu de leur infériorité en nombre, du manque d'armement, de leur manque d'entraînement, et finalement c'était entre peur et manque de consignes claires. En ce qui concerne la dernière attaque, donc celle de Baga et ensuite Mondougi, on le savait depuis beaucoup plus longtemps, depuis plusieurs mois, et Abuja avait été prévenu. Et ce qui est inquiétant, c'est que finalement, au niveau central, il n'y a pas eu de réaction, il n'y a pas eu de renforts qui ont été envoyés sur place. Alors, c'est difficile d'expliquer. Par contre, pour nous, c'est une inquiétude, et il nous semble très très important qu'aujourd'hui, le gouvernement nigérian, l'armée nigériane, s'engage à réellement utiliser le renseignement dont elle dispose pour pouvoir protéger la population civile.
Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty International France, jointe à Paris.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
En RDC, suite aux manifestations contre la modification de la loi électorale, les autorités avaient ordonné aux compagnies de télécommunications de couper l'Internet et les SMS dans le pays. Plus d'une semaine après, Internet n'est toujours pas encore totalement rétabli pour les utilisateurs, surtout pour les réseaux mobiles. Comment cela est vécu à Boujimaï, dans le Kassaï oriental? Bagassi Koura a joint Emery Kazadi, journaliste de la radio-télé et Debou Kassaï à Boujimaï.
Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas se transmettre des SMS, au moins dans des cybercafés pour le moment. Nous pouvons aller naviguer, accéder à nos boîtes e-mail, notamment faire des recherches sur Google. Mais dans nos téléphones mobiles, nous ne savons pas toujours y accéder, même si au niveau des entreprises de télécommunications, de leurs quartiers généraux des différentes entreprises de télécommunications, là au moins ils ont le signal Internet. Mais pour nous les utilisateurs des mobiles, nous ne savons pas accéder à l'Internet à partir de nos téléphones. Il faut toujours aller au cybercafé, même pour les cybercafés. C'est seulement à partir d'hier, je crois, on a commencé à rétablir l'Internet petit à petit, mais il y avait Google, Facebook, Twitter et autres auxquels on ne savait pas accéder. Ça nous a posé un peu de problèmes depuis ces manifestations-là de Kinshasa.
Et comment les gens réagissent au manque d'Internet, notamment sur le mobile?
On nous a privé sérieusement l'information. Nous-mêmes qui sommes journalistes, parfois, nous recourons à l'Internet. On a suivi même dans des revues de presse, notamment des chaînes de radio, Okapi et autres, qui ont également exprimé le fait qu'ils étaient incapables d'accéder à certains journaux parce qu'il y a beaucoup de journaux en ligne.
Et est-ce que les gens comprennent cette mesure de coupure d'Internet?
C'est plus la classe intellectuelle, la population qui a un peu été sur le banc de l'école. Et les jeunes gens qui sont dans des écoles, et au moins pour le moment, ils ont grandi avec Internet, ils ont trouvé cela. Mais il y a des gens qui n'ont presque pas de niveau d'études, qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, même quand les médias se plaignent du fait qu'ils n'ont pas accès à certaines sources d'informations. Pour la plupart, ça passe un peu par la tête.
Emery Kazadi, journaliste à la radio-télé Debou Kassaï à Mboujimaï.
Salut, c'est Assal Fo du groupe Magic System sur La Voix de l'Amérique dans l'émission RM Show. C'est ça qui est la vérité.
Chers amis de VOA Afrique, restez branchés entre 20h et 21h, temps universel, dans RM Show pour écouter de la bonne musique africaine. Nous allons bouger au rythme de la rumba, coupé décalé et bien sûr Naija Music. N'oubliez pas que notre sujet hebdomadaire continue. La question de cette semaine, selon vous, c'est quoi la démocratie? Continuez à nous envoyer bien sûr vos commentaires sur notre groupe Facebook, Roger Muntu, La Voix de l'Amérique. Et la musique africaine, la musique forte, c'est jeudi seulement dans RM Show. Mais appelez aujourd'hui entre 20h et 21h, temps universel au 001-202-619-3140. Peace Africa!
Un rappel de quelques titres.
L'armée tchadienne a chassé Boko Haram de la ville de Maloum Fatori dans le nord-est du Nigeria. Les djihadistes nigérians sont par ailleurs accusés d'avoir égorgé 10 personnes dans l'extrême nord du Cameroun.
En Centrafrique, des attaques ont fait au moins 5 morts dans la région de la Nana Grébizi dans le centre nord.
En RDC, l'armée annonce le lancement de l'offensive contre les FDLR.
Et voilà, Georges Léonard Sagnot a dirigé la mise en onde avec notre ami Zorniak à la technique.
Merci à toute la rédaction. Au micro, c'était Morgane Guiriec
et Chérubin Dorsil.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé, 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur